À prier,
puis à remettre cette rencontre sous le regard du Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta fidélité.
Merci de nous avoir conduits ici, merci de nous avoir gardés. C'est une joie pour nous de nous retrouver pour ensemble te remercier pour tout ce que tu accomplis, tout ce que tu fais. Et nous te prions maintenant que tu disposes nos cœurs à l'étude de ta parole. Que tu nous éclaires, que tu illumines les yeux de nos cœurs par ton Esprit Saint, que tu nous donnes de saisir ta parole et que tu suscites en nous le désir d'obéissance aussi à ta parole. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, nous reprenons notre petite série d'études sur les quoi? Ça ne se rappelle plus? Ah, c'est loin, hein? C'est loin, il suffit. 2 semaines, oui? Voilà, les titres, les Je suis. Les Je suis de Jésus. Combien il y en a? On avait dit? Révision? Non, je crois que c'est 7. 7, hein, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut les énumérer dans l'ordre? Le premier, alors vous me dites... Où est-ce qu'on trouve... Attends, non. On travaille dans l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et pas de désordre. Hein. De paix et pas de désordre. Donc, ne regardez pas dans votre Bible. Hein. On essaie de faire de mémoire. Parce que, hein. Le premier, c'est quoi? Je suis le pain de vie. C'est quel chapitre? Juste le chapitre. Ça fait 6 de genre. Ensuite, le second. La lumière du monde. C'est... Quel chapitre? C'est Jean 8. Ensuite, je suis la porte. Vous avez lu aujourd'hui, hein? Donc on est dans Jean 10. Ensuite, je suis, non, je suis le bon berger. On est toujours en Jean chapitre 10. Ensuite, je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est au chapitre 11, ensuite, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est Jean chapitre 14. Et enfin, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est Jean chapitre 15. Voilà, donc vous voyez là, je suis sûr que ça va rester un peu mieux comme ça. Hein, dans votre, là, vous avez des points de repère. Alors, nous avions considéré... les deux premiers, hein, je suis le pain de vie et je suis la lumière du monde. Alors, on avait dit que les différents je suis nous amènent à travers cela, Jésus dit des choses, hein, sur sa personne et aussi sur son œuvre et ça nous permet, bien sûr, de cerner davantage de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons considérer le troisième, qui est « Je suis la porte ». Voilà, c'est assez étrange, hein. Le berger, ça va, encore la lumière, comprends, mais « Je suis la porte », c'est peut-être un peu plus étrange comme expression. Donc, on va lire Jean chapitre 10, et on va lire les 10 premiers versets. Juste Jean chapitre 10, versets 1 à 10. « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir toutes dehors. Non, j'ai sauté quelque chose là. Je reprends le verset 3. Le verset 3, je reprends. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit ces paroles, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, à qui est-ce que Jésus parle ici? À ses disciples? Oui, voilà. Alors, c'est vrai qu'on commence chapitre 10. Nous, quand on lit la Bible, il y a un gros 10 marqué au fer rouge, en noir foncé dans la Bible. Et puis, pour nous, c'est une autre histoire. On commence une autre histoire, on lit quelque chose, hop, ça commence là, ici. Mais il faut vous dire que la numérotation dans la Bible, c'est arrivé bien tard, hein. Et c'est pour permettre de se repérer, mais dans ce que Jésus dit, hein, il y a une continuité et il est en train de parler à des personnes avec qui il était en train de discuter quelques versets plus haut. Alors, si on regarde un peu, premièrement, on va regarder un petit peu comment se décompose ce que Jésus dit ici, hein. J'ai appelé ça un premier point, la décomposition du discours, hein, de Jésus. Quel est le contexte? Quel est le contexte de ce qu'il dit ici? Quel est l'arrière-plan de ce qu'il dit? De quoi est-ce qu'il parle? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Le chapitre 10 vient après le chapitre 9. Et le chapitre 9, c'est quoi? C'est le chapitre dans lequel il y a la guérison de l'aveugle né, d'accord? Et quand on lit le texte de la guérison de l'aveugle né, l'histoire de la guérison, vous pouvez la lire, hein, mais qu'est-ce qui se passe après cette guérison? Est-ce que vous vous souvenez? Eh bien, il y a un échange entre l'homme qui a été guéri et les chefs religieux, d'accord, qui discutent avec lui pour savoir comment il a été guéri. Et quand on lit le texte, on comprend tout de suite que le débat ou la controverse se focalise sur quoi dans leur échange? Sur l'identité de celui qui a accompli le miracle. Autrement dit, l'identité de Jésus. Si vous regardez en Jean chapitre 9, verset 17, ici, il dit « Il y eut une vive division parmi eux, parmi les chefs religieux, et ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui ?» De qui? Ben, de Jésus. Hein. Qu'est-ce que tu dis de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Et l'aveugle répond, enfin l'ancien aveugle, il est plus aveugle, hein, il répond « C'est un prophète. » D'accord. Donc la question porte sur Jésus, chapitre 9, verset 22, il dit ses parents, donc ils font appeler ses parents pour savoir est-ce qu'il a été aveugle, ils ne croient pas qu'il a été aveugle auparavant, donc ils font venir les parents, verset 22 du chapitre 9, il dit ses parents ils ont dit, bon, il est grand, posez-lui les questions, interrogez-le lui-même, il va vous répondre, les parents avaient peur en fait, et Jean nous dit ici au verset 22 que ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez encore là, ici, reconnaître Jésus comme le Christ. Il s'agit de l'identité de Jésus-Christ. Versets 24 à 25, Nous pouvons lire, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Donc, en parlant de Jésus, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et puis verset 29, il dit, nous savons que Dieu, c'est l'aveugle qui parle, l'aveugle guéri, qui parle, qui dit, nous savons que Dieu a parlé, les chefs religieux qui disent, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Et l'aveugle dit, il répond, l'ex-aveugle répond, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais que si quelqu'un honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc voilà tout ce que peut dire cet homme. Donc on voit bien ici que l'entretien vif qu'il a avec les chefs religieux a pour centre, a pour point de focalisation l'identité de Jésus-Christ, qui il est ce qu'il a fait, donc le reconnaître comme il est. Lui, l'homme dit que c'est un prophète, les juifs, lui, eux, le rejettent. Et le texte nous dit, au verset 35, que en fait, il a été chassé, il a fini par être chassé de la synagogue. Alors, Jésus le rencontre, et Jésus se révèle plus clairement à lui. Verset 35, 39, il vous regardez, il dit, Jésus apprit qu'il avait été chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc voilà un peu, si on veut, la révélation que Jésus fait à cet homme. Et vous voyez comment il reçoit, il croit, et puis tout de suite, la Bible dit qu'il adore. Il adore Jésus-Christ. Et donc, les pharisiens, il y avait des pharisiens qui étaient là, qui écoutaient cela, c'est ce qu'on voit au verset 40, quelques pharisiens étaient avec lui, ayant entendu ces paroles dire, nous aussi, sommes-nous aveugles? Il dit à Jésus, dans tout ce que tu dis là, est-ce que nous aussi nous sommes concernés? Et Jésus leur répond, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, et c'est pour cela que votre péché subsiste. En d'autres termes, il dit, voilà, si vous êtes aveuglés par votre propre orgueil, vous croyez que vous êtes juste, vous croyez que vous n'avez pas de péché, c'est pour cela que votre péché demeure. Mais si vous voyez tel que vous êtes vraiment, des aveugles spirituels, eh bien, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, puisque vous demeurez dans cet aveuglement spirituel, votre péché demeure. Et puis c'est là qu'il dit, chapitre 10, verset 1, « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Donc voilà un peu le contexte de ce que Jésus dit. Mais vous allez être d'accord avec moi, c'est un peu brutal quand même. Si vous regardez au verset 6, Jean dit que c'était une parabole. Quelle est la particularité de cette parabole? Est-ce qu'elle ressemble aux paraboles des évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean? On appelle ça les évangiles synoptiques. Matthieu, Marc, Luc. Est-ce que ça correspond aux paraboles que vous connaissez dans ces passages-là? Ici. Non, en général, comment Jésus... Un homme sorti pour semer... Voilà, c'est un peu comme cela. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit... Jésus raconte une histoire... Puis après, il arrive à une conclusion qui commence par « en vérité, je vous le dis ». Mais ici, il discute et puis commence avec quelque chose qui semble être la conclusion d'une parabole. Et donc, il dit « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui entre par ailleurs, est un voleur. Mais celui qui entre par la porte, eh bien, il est le berger des brebis ». Et puis, donc, c'est une... C'est une parabole assez étrange. Hein. D'autres textes disent que c'est une, il emploie une similitude. En marge de ma Bible, il dit parfois, il dit littéralement, ça veut dire que c'est un proverbe qu'il est en train, quand Jean dit qu'il parle cette parabole, il dit qu'il parle ce proverbe. Donc il dit quelque chose et au verset 6, on voit qu'ils ne comprennent pas. Ses interlocuteurs ne comprennent pas où il veut en venir. Ah, ils comprennent l'image que Jésus utilise, certainement, mais ils comprennent pas où il veut en venir. Ça vous est peut-être déjà arrivé, hein. Lorsque l'on prêche, je dis, bon, j'ai rien compris de ce qu'il a voulu dire ici, hein. Une fois, je parlais à un jeune, il dit, est-ce que tu as compris, ce qu'on a dit dimanche? C'était moi qui avais prêché. Il me dit, pas vraiment. Pas vraiment. Et des fois, on se dit, bon, il faut quand même être un peu plus clair, plus explicite, des fois, quand on dit les choses. Mais ici, c'est pas évident, hein. Mettez-vous à la place, juste, de ces personnes. Jésus dit juste ça. Est-ce que vous auriez compris ce qu'il est en train de dire là? Alors, ils comprennent jusqu'à un certain point, donc, mais ça n'est pas très, 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 très clair, on pourrait dire. Donc, on pourrait dire, Jésus utilise, on pourrait regarder, donc, comment Jésus parle à ces personnes, hein, et voir la structure de cette parabole, si on veut. Il dit, du verset 1 jusqu'au verset 5, si on regarde bien, il raconte, c'est pas une histoire qu'il raconte, comme dans les autres paraboles, il expose une réalité sur une activité de la vie courante, on est d'accord? Il dit, il parle de bergers, de brebis, de personnes qui montent par le muret, d'autres qui sont pas le berger qui lui vient, puis il explique un petit peu la relation qu'un berger a avec ses brebis. Je pense que tout ça, ça reste relativement clair. Ils ne comprennent pas, verset 7, que fait Jésus? Alors Jésus dit en vérité, une deuxième fois, donc il dit cela, et quand il dit en vérité, ça veut dire vraiment, vraiment, je vous le dis, et quand on voit ça, on sait qu'il va dire quelque chose qui est important, un point qu'il faut pas rater. Donc il le fait au verset 1. Et puis au verset 7, il dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Alors, c'est assez étrange quand même, je ne sais pas si vous avez fait attention. Jésus dit au verset 1 que les brigands et les voleurs, ils font quoi? Regardez bien le verset 1, ils montent. Il n'entre pas par la porte de la bergerie. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, c'est un voleur. Et celui qui entre par la porte, c'est le berger. Et puis ensuite, verset 3, il dit, le portier ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. On comprend cela. Lorsqu'il les a fait sortir, et toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc là, il parle de quoi? Il parle d'une relation avec le berger et les brebis. Donc on pourrait dire, en gros, il parle ici du berger véritable et de ceux qui ne sont pas les bergers véritables. Donc ici, il oppose quoi? Qu'est-ce qu'il oppose là? Il oppose le berger aux voleurs et aux brigands. Et après, il dit, en vérité, je vous le dis, je suis, et on s'attend à entendre quoi? Je suis le berger. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis la porte des brebis. Et après, il continue, regardez, verset 8, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Et donc là, il compare maintenant la porte des brebis et les voleurs et les brigands. Et après, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira et trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour égorger, etc. Donc, il parle un peu de la porte, de lui qui est la porte, et puis des voleurs et des brigands. Et après, à partir du verset 11, il parle de quoi? Il dit, je suis le bon berger. Donc, si on veut, pour essayer de comprendre un petit peu, on pourrait dire qu'il parle d'une manière générale dans les versets 1 à 5, où il emploie pas mal d'images. Quelles sont les images qu'il utilise? L'image du berger, l'image de la porte, et puis l'image des brebis, on pourrait dire. Il y a une image qu'on ne retrouve pas après dans ce qu'il dit après, c'est celle du portier, hein, ce qui est entre les versets 1 et 5, il parle du portier. Et après, il revient, on pourrait dire, sur ces images, dans les versets 7 à 10 que nous avons lus, il dit « Je suis la porte ». Après, dans les versets 10 à 18, il parle du fait qu'il est le bon berger. Et puis un peu plus loin, si vous regardez au verset 26, je crois que c'est verset 26, il dit « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles viennent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne péquiront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Et donc là, il parle des brebis. Voyez. Donc on pourrait dire, si là, pour essayer de cerner comment il fait, il prend une image qui est une image générale et ensuite, comme s'il tire un fil après à chaque fois de chacune des choses ici, la porte, le berger et les brebis. Et pour ramener tout ça à lui et pour parler de ce qu'il est et de ce qu'il fait, de la relation qu'il entretient avec ses brebis. Alors aujourd'hui, on va se cantonner à ce premier aspect. Alors c'est un petit peu, il faut pas, quand on lit, je pense, ces textes, essayer de trouver des correspondances précises entre là, le berger, ça veut dire ça, la brebis, ça veut dire ça, la porte, ça veut dire ça, le mur, ça veut dire ça, etc. Hein. Une image, ça a ses limites. Hein. Une image, ça a ses limites. Donc, il faut essayer de voir comment Jésus développe les choses et quel enseignement il tire. Et c'est l'enseignement qu'il tire qui est la véritable leçon que nous devons retenir. Donc, si on lit le texte de manière linéaire, on est un peu perdu. Hein. Si on lit ça comme ça, on est un peu perdu parce que Jésus lui-même, il mélange un peu les métaphores. Hein. Je l'ai dit, il parle dans les premiers versets de la différence qu'il y a entre les bergers et le voleur. Puis il explique qu'il est la porte pour juste après dire qu'il est le bon berger. Et après terminer par la relation avec les brebis. Mais je pense que quand on lit quand même, voilà, en ayant ça en tête, on comprend vraiment ce que Jésus dit ici. Alors, je reviens au verset 1 à 5. C'est l'image qui est utilisée ici. Jésus utilise d'abord une image. Et l'image, c'est celle de, comment on pourrait appeler ça, de la bergerie de l'époque. Il fait donc appel à une réalité, on pourrait dire, de la vie courante, pour établir une différence de nature qui existe entre deux catégories de personnes. Quand il dit, chapitre 10, verset 1, « en vérité, je vous le dis, celui qui entend par la porte de la bergerie, mais celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur. » Donc, il prend l'image d'une bergerie, de comment ça fonctionne, etc., pour mettre en évidence deux catégories de personnes. D'une part, le véritable berger des brebis, et d'autre part, les voleurs, hein, ou les mercenaires qu'on verra après au chapitre 10. Celui qui n'entre pas, et puis celui qui entre, d'accord? Celui qui n'entre pas, bien, il n'est pas le berger, mais celui qui entre par la porte, il est le berger. Donc ce sont des images qui sont relativement parlantes pour les gens de l'époque, pour nous peut-être moins. Je ne sais pas si les tout jeunes ici ont vu déjà à quoi ressemble une brebis, hein. Je sais pas, ou alors une bergerie, et encore moins un berger, hein. Je sais pas qui c'est qui a déjà rencontré un berger. Qui a déjà rencontré un berger dans sa vie? Croisé un berger, un vrai berger. Ah, vous voyez, hein, c'est pas beaucoup de monde, hein. Hein, d'accord, c'est pas très courant dans nos cités. Il faut aller vraiment à la campagne, ou alors dans d'autres pays, hein, pour pouvoir rencontrer un berger. Mais ces images de brebis, de berger sont extrêmement parlantes pour les interlocuteurs de Jésus, parce qu'à l'époque, eh bien, les conducteurs même du peuple étaient aussi appelés des bergers. Hein. Et puis, ils savaient ce que c'était. David était un berger. L'Ancien Testament parle beaucoup des bergers. Donc, cette image, elle est très parlante pour eux, beaucoup plus qu'elle est certainement pour nous. Alors, si vous lisez Ézéchiel 34, par exemple, je crois qu'il y a un frère qui a cité ça dimanche dans sa prière, hein, Ézéchiel 34, où Dieu parle, et il demande à Ézéchiel de prophétiser contre les bergers d'Israël. Voilà. Il dit, prophétise contre les bergers d'Israël. Et il réprimande tous ceux qui dirigent son peuple, donc les chefs religieux qui exercent mal leur travail de berger auprès du peuple d'Israël. Alors, les bergeries, c'était pas ce qu'on appelle les bergeries. Maintenant, si vous allez sur Internet, vous regardez les bergeries d'aujourd'hui, c'est des temples. Ça ressemble, j'ai neuf vieux, ça ressemble à un temple. Vraiment, c'est très grand. Et puis, il y a beaucoup de brebis à l'intérieur. À l'époque, c'était des enclos de pierre, hein, d'accord, qui étaient réalisés avec parfois une petite porte assez étroite et par laquelle pouvaient rentrer les brebis. Et cette porte était gardée, dit-on parfois, soit par un berger lui-même ou par un portier. Alors, on y mettait parfois plusieurs troupeaux et on louait certainement le travail d'un portier qui était là, qui montait la garde devant la porte pour empêcher que, eh bien, des animaux ne viennent attaquer les brebis ou que des personnes ne viennent aussi et puis ne volent. Aujourd'hui, les bergeries ont des clôtures parfois électriques. Pour les moins modernes et pour les plus modernes, j'ai lu sur Internet, j'ai cherché, hein, il y a des bergeries connectées. Hein, maintenant, et en temps réel, le berger peut savoir, pendant qu'il dort à des kilomètres de là chez lui, ce qui se passe dans la bergerie. À cette époque, ça n'était pas le cas. Hein. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui monte la garde. Il n'y avait pas de smartphone pour voir en direct ce qui se passe dans la bergerie. Donc Jésus dit ici, il emploie cette image. Et pour montrer la différence qui existe entre deux catégories de personnes, le véritable berger et le mercenaire, celui qui est un voleur. Et verset 3 à 5, il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Autrement dit, il dit que le portier connaît le vrai berger. Il lui ouvre, il l'appelle, le berger connaît les brebis, il y a une relation avec les brebis, il appelle les brebis par leur nom. Il appelle celles qui lui appartiennent. Alors, j'ai lu dans un commentaire que parfois, quand il y avait plusieurs troupeaux, eh bien, ils faisaient tous sortir. Hein, et puis, à un moment donné, les différents bergers prennent des directions différentes et ils font un son particulier. Et on voit toutes les brebis qui se séparent d'elles-mêmes et puis qui vont suivre exactement leur propre berger. Et c'est pour ça que Jésus dit ici, elles connaissent la voix du berger et elles suivent leur berger et pas un autre. Et il dit aussi qu'elle les connaît par leur nom et quelqu'un a dit qu'il a vu, un missionnaire disait qu'il a rencontré dans un pays où voilà, le pastorat hein, était accompli, c'est-à-dire le fait d'avoir des bergers et des brebis. Il dit que le berger nommait les brebis. Il leur donnait un nom. Ici, on fait plus ça. Il y a tellement, mais là, il leur donnait vraiment un nom et il pouvait, avec un nom ou avec un son qu'il faisait, il a fait l'expérience, appeler juste une brebis qui quittait le troupeau et venait se mettre jusqu'au pied du berger. Donc, c'est pas juste quelque chose que Jésus dit comme ça, c'est quelque chose qui existait vraiment où les pasteurs, les bergers donnaient des noms aux brebis et les brebis, il y avait donc une relation particulière entre le berger et la brebis, entre le berger et son troupeau. Et Jésus met en évidence cette réalité pour interpeller ceux qui sont censés être les pharisiens ici, les bergers du peuple, et qui ne connaissent pas le troupeau, et qui non seulement ne le connaissent pas, mais agissent, par exemple, quand on regarde comment ils ont chassé cet homme guéri de la synagogue, qui agissent mal à l'égard des brebis. Et là, c'était une véritable brebis du Seigneur qu'il a sauvé, qu'il a racheté. Et il montre comment ces hommes les interpellent sur la manière avec laquelle ils ont considéré cet homme-là. Donc, ça c'est l'image que Jésus utilise. Mais qu'est-ce qu'il veut enseigner vraiment? Et là, on trouve ça du verset 7 au verset 10. Je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait s'attendre à ce qu'il dise « Je suis le berger », mais il dit ici « Je suis la porte des brebis. » Et donc, le contraste qu'il établit ici, ce n'est plus un contraste comme dans l'histoire qu'il raconte, entre les bergers et les voleurs, mais un contraste entre la porte et les voleurs. Il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Alors, qui sont ceux qui sont venus avant lui? Bien, on pourrait penser dans un contexte immédiat que ce sont les chefs du peuple qui sont là, qui sont venus avant lui. Et puis, peut-être on pense aussi à tous ceux qui se sont parfois autoproclamés messie, hein, comme ça existe. On a entendu des gens dire cela à l'époque aussi, des gens qui se sont autoproclamés messie, qui se sont élevés au-dessus du peuple. Il dit tous ceux qui sont venus. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas les David, les Moïse, les Esdras, les Jérémie, les Isaïe, qui ont été des serviteurs fidèles du Seigneur. Mais il y a eu, on le sait dans l'histoire d'Israël, hein, des rois, des sacrificateurs, des prophètes qui ont été des faux prophètes. Et quand Jésus dit tous ceux qui sont venus avant moi, probablement il pense à tout cela aussi, à tous ces faux docteurs, ces faux messies qui se sont présentés. Donc il dit, moi je suis la porte des brebis et tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et il ajoute, mais les brebis ne les ont point écoutées. Et il dit que ici, quand les véritables brebis n'écoutent jamais la voix des voleurs et des brigands ou des étrangers, comme il disait dans l'histoire qu'il a racontée auparavant, parce qu'elles connaissent la voix du véritable berger. Donc il dit, donc ceux qui sont venus, ils ont été des voleurs et des brigands, mais ils n'ont pas eu de succès parce que les vrais brebis n'écoutent pas la voix des voleurs et des brigands. Et après, il continue verset 9, puisque c'est la même idée, donc j'y vais. Hein. Il dit, je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il trouvera des pâturages. Donc Jésus exprime ici qu'il est l'exclusif moyen de salut. C'est ce qu'il dit ici à ses interlocuteurs. La bergerie, c'est le lieu où les brebis sont comment ? En sécurité. Et la porte, c'est l'endroit par lequel, le lieu par lequel il faut passer pour atteindre le lieu de la sécurité. Et Jésus dit, je suis la porte. C'est-à-dire, je suis celui par lequel ou celui vers lequel il faut venir, celui dans lequel on doit mettre sa confiance si on veut être en sécurité. Donc il dit ici qu'il est l'unique moyen qui permet d'accéder à la sécurité de la bergerie. Il est aussi le seul moyen d'accéder au vert pâturage, c'est ce qu'il dit ici. Donc c'est pour ça qu'il dit que les brebis, elles peuvent entrer, elles peuvent sortir. Alors ça ne veut pas dire elles sont en sécurité puis elles sont plus en sécurité. C'est une image, je vous ai dit une image, ça c'est limite. Mais il dit elles peuvent aller et venir, d'accord. Elles ont une liberté de mouvement, elles sont en sécurité, elles peuvent avoir de la bonne nourriture, tout cela uniquement en venant à lui. Il est le seul moyen d'accès, une porte c'est souvent un moyen d'accès, hein, le seul moyen d'accès à cette sécurité, à cette nourriture que peuvent avoir les brebis et qui peuvent permettre aux brebis de se développer. Il n'explique pas qu'il est un moyen, qu'il est une porte parmi d'autres, mais il dit « je suis la porte ». Et celui, dit-il, qui entre par moi, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc sauvé de tous les dangers, on pourrait parler si on reste sous l'image de la bergerie, mais on comprend aussi sauvé dans le sens du salut spirituel, sauvé du danger, de l'enfer. Hein, c'est toutes ces choses-là qui sont comprises ici. Donc Jésus, c'est l'unique et exclusif moyen de salut. Ça rappelle ce qu'il a dit en Jean chapitre 14 verset 6, un autre je suis, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Donc c'est un principe, je pense quand il dit « Je suis la porte », c'est un principe d'exclusivité que Jésus enseigne ici, et aussi le fait de dire que c'est uniquement par lui qu'il faut passer pour avoir accès au ciel, au salut, à une vie, plus tard comme il dit, à une vie abondante. C'est quelque chose qui est très important parce que quand vous parlez avec les gens dans le monde, si vous dites Jésus est un moyen, est une porte, mais il peut avoir d'autres portes par lesquelles on peut passer pour accéder au salut, vous n'aurez aucun problème. Mais si vous dites Jésus est le seul, l'unique, moyen. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui ou rien du tout. Et là, vous êtes vite regardé comme un personnage étrange dans un monde où c'est le pluralisme qui règne. Hein, d'accord. Donc, quand Jésus dit « je suis la porte », c'est-à-dire c'est par ce lieu-là qu'il faut passer, où vous n'avez rien, il énonce quelque chose qui est relativement fort. Il dit à ses chefs aussi que eux-mêmes ils doivent venir à lui. Hein. Il est la porte et c'est par la porte qu'il faut rentrer aussi si on veut faire paître les brebis. Il dit, rappelez-vous, il dit que les voleurs, ils font quoi? Ils montent par la muraille. Il dit, mais le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par la porte. Et ceux qui sont les sous-bergers aussi du peuple, on pourrait dire, hein, les responsables religieux qui prétendent faire paître les brebis du Seigneur, donc les bergers d'Israël, doivent aussi passer par cette porte qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas de moyen d'avoir une véritable relation, un véritable de faire paître le peuple de Dieu autrement que par Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit que les autres ne donnent rien, mais non seulement ils ne donnent rien, ils ne font que détruire. Il dit pas, ils font paître un peu le troupeau et puis ils en prennent un petit peu de temps en temps. Il dit non, quand ils, tous ceux qui ne viennent pas à lui, tous ceux qui ne passent pas par cette porte et qui prétendent faire paître le troupeau de Dieu, eh bien, ce sont des voleurs qui ne font que, il dit, ils ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Et donc, il dit qu'en dehors de lui, il n'y a absolument rien de bon à attendre. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit lorsqu'il parlait des scribes en Marc chapitre 12, je vous lis ça, Marc chapitre 12, verset 38. Il dit à son enseignement, il dit « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Ils dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Il parle d'eux comme des personnes qui dévorent les maisons des veuves. Ça veut dire qu'ils extorquent, qu'ils viennent, ils sont sous l'apparence de prière, mais ils essayaient probablement, pense-t-on, d'encourager les personnes qui sont dans des situations douloureuses, des veuves, mais qui ont des moyens financiers, eh bien, peut-être de faire des dons, hein, ou voilà, on pourrait dire d'investir dans les choses du temple, etc. Et au passage, bien sûr, il s'était vu comme du détournement. Et Jésus dit ici qu'ils font pour l'apparence de longues prières, mais ils dévorent les maisons des veuves, ils les dépouillent. Et c'est exactement ce qu'il dit. Quand il dit que les bergers qui ne passent pas par la porte sont des voleurs, et ils ne font que dérober, détruire et égorger. Hein, c'est exactement ce que l'on a ici. Et puis, il termine en disant ici, donc la fin du verset, il dit « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alors, c'est pas simplement qu'elles aient la vie éternelle, mais c'est qu'elles aient une vie abondante, une vie qui déborde. Qu'est-ce que cela veut dire, ici? Si on considère que, parfois, les chrétiens souffrent, pas mal, hein, ils connaissent la persécution, qu'est-ce que peut vouloir dire Jésus quand il dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait vouloir dire?
La vie éternelle.
Oui, mais je disais tout à l'heure que c'est pas seulement la vie éternelle. C'est-à-dire, comme quelqu'un disait, c'est pas simplement la vie dans la longueur, quoi, on pourrait dire. Mais il dit en abondance, ça a plus une idée de plénitude, un peu quelque part, hein. Une plénitude. Ok. Oui? Voilà. Oui, la joie, la paix, la satisfaction, j'ai entendu, voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que même si les brebis connaissent des difficultés, eh bien, elles peuvent avoir une vie qui soit une vie abondante, de pleine satisfaction de l'âme en Jésus-Christ. Par exemple, 1 Pierre 2, versets 5 à 8, je vous lis ça, il dit ceci, il dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, ça ressemble un peu au fruit de l'esprit, hein, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété et à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. » Et il ajoute « Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Autrement dit, il y a des choses qui vont, quand il dit qu'il est venu pour donner la vie, et la vie en abondance, il y a la vie éternelle, mais il y a la vie qu'il peut vivre déjà aussi sur cette terre. Il peut la remplir, ils peuvent être pleins de satisfaction. Autrement dit, la satisfaction ne dépend pas de ce qu'on a dans les mains, c'est ce qu'on le pense, hein. La satisfaction dépend de la satisfaction de l'âme que Dieu seul peut combler. Et Christ offre par son esprit la grâce, je crois, de vivre, c'est ce que ça veut dire, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, le contentement, la pleine satisfaction. Il permet d'être reconnaissant, même quand tout ne va pas bien. Donc il y a tout cela, ça participe à l'abondance de la vie que Dieu donne. L'homme naturel ne connaît pas cette abondance de vie là, hein. Sa vie est toujours liée aux circonstances extérieures, à ce qu'il peut avoir, à ce qu'il ne peut pas avoir. Mais l'enfant de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui habite en lui, a cette vie abondante qui coule, dans laquelle il connaît la satisfaction en Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait aux Colossiens que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Donc la vie que Jésus offre est une vie de plénitude, une vie qui remplit de tout ce dont l'âme humaine a le plus besoin, c'est-à-dire la paix de Dieu, l'amour, la satisfaction. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. » Et puis il ajoute quoi ?« Et la paix de Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Autrement dit, il y a une plénitude qui vient, qui remplit la vie parce que l'Esprit de Dieu est répandu dans le cœur du croyant. Et Psaume 36 dit ceci, 7 à 9. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. » D'accord. Il se rassasie de l'abondance. C'est deux choses qui sont fortes ici, hein. C'est-à-dire, c'est une chose de dire qu'on se rassasie, mais on se rassasie de l'abondance. C'est-à-dire que il y a toujours une abondance et dans laquelle on peut être rassasié. Il dit cela en parlant de la bonté de Dieu. Il dit, tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, et il faut saisir que le chrétien a la possibilité de vivre cette plénitude de vie, cette abondance qui le rend heureux, qui le rend satisfait d'une manière indépendante des circonstances qu'il peut connaître. Et Christ le remplit. Quand Christ dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie », et qu'elle ait la vie éternelle soit, mais qu'elle ait une vie pleine de satisfaction de l'âme. Alors je termine avec cela, chers frères et sœurs, quelques petites applications pour nous ici. Jésus dit « Je suis la porte. Celui qui passe par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Et il dit « Moi, les voleurs, ils ne font qu'égorger, dérober et détruire, mais moi, je suis venu pour quoi ? Pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Donc, il est celui qui donne véritablement la vie. Il est le seul qui le fait, qui soit capable de le faire vraiment. On vient de vivre des élections présidentielles. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans cette élection, il y avait beaucoup de candidats et pratiquement tous les candidats avaient de l'espérance à vendre ou à donner aux gens. Et la manière de dire les choses, c'était de dire quoi ? Votez pour moi et vous aurez ceci, ceci, cela. Autrement dit, c'est comme s'il disait, je suis la porte par laquelle il faut passer. Si vous passez par là, vous aurez la retraite à 60 ans. Si vous passez par là, vous aurez le pouvoir d'achat qui va augmenter. Si vous passez par là, et certains disent, et c'est des spécialistes qui disent, il y a un langage, maintenant les hommes politiques, tous, hein, autant qu'ils sont, hein, ont un langage messianique. Ils sont le sauveur, le messie qui peut nous apporter ce dont nous avons besoin. Mais avec le temps, hein, on se rend compte que une fois en place, ça ne se passe pas comme ça. Mais tous les systèmes politico-religieux fonctionnent de la même manière. Hein. Le communisme a fonctionné de la même manière. C'est présenté comme voilà, un communisme, on pourrait dire, messianique, qui proposait aux gens, surtout à ceux qui étaient les plus défavorisés, eh bien, une meilleure vie. Et on sait quelle violence cela a amené. Et pareil, dans tous les systèmes, qu'ils soient capitalistes ou autres, anarchiques ou monarchiques, chaque fois qu'on a proposé des choses, et quelqu'un a dit que l'espérance s'est toujours transformée en violence, hein, dans tout ce qu'on en voit encore aujourd'hui. J'ai trouvé ceci sur Internet. Alors, après la première élection de Monsieur Emmanuel Macron, eh bien, il y a le journal The Economist qui a titré le sauveur de l'Europe, point d'interrogation. Et vous savez quelle image il y a en fond sur ce magazine? Il y a le président Macron qui marche sur l'eau. Vous pouvez trouver ça sur Internet, qui marche sur l'eau. Et puis il y a deux petites chaussures d'une dame qui semble se noyer, c'était la première ministre britannique, j'oublie son nom, hein. Theresa May, voilà, Theresa May, d'accord. Donc, et il est vu comme et beaucoup. Et après, j'ai cherché quand même, mais quand même c'était un peu. Et j'ai trouvé des commentaires journalistiques qui disaient, oui, voilà, le médiateur peut-être en Europe, peut-être celui qui sauvera à l'Europe. Vous voyez, ça paraît banal comme ça. Ça paraît banal comme ça. Mais les mots, les terminologies qui sont utilisées sont des terminologies messianiques, un peu, hein. C'est celui qui va apporter, qui va donner l'espérance, qui va offrir, hein, les choses les meilleures. Et il y a un sociologue qu'on connaît qui est spécialiste du protestantisme, qui dit que l'État, hein, a pris un peu la place de l'Église, hein, et les chefs d'État ont pris la place quelque part parfois du Messie dans la pensée des gens. C'est l'homme qui va nous sauver. Et il arrive parfois que les chrétiens se laissent un petit peu prendre dans ce piège en pensant que un homme politique, hein, et parfois on peut avoir des petits débats vifs même entre les chrétiens, hein, pour pouvoir voter pour un homme politique ou une femme politique parce que c'est lui ou elle qui va nous sortir de la situation dans laquelle on est. Et je crois que ce texte nous ramène en tant que chrétiens à ce qui est vraiment essentiel. Jésus dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, que pour égorger et pour détruire. Il dit, moi je suis la porte et je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il ne faut pas nous déchirer sur la politique. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ seul. Et qu'il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Peu importe que le monde pense, ce que le monde pense, hein, qu'il sera sauvé par telle politique, tel mouvement, tel homme, tel système gouvernemental. La Bible dit que le salut dont on a besoin est ce qui va nous apporter la vraie vie. C'est seulement Jésus-Christ. Je vous lis cette citation d'un commentateur, j'ai trouvé ça dans un livre, il dit « Jésus a raison, ce n'est pas la doctrine chrétienne du ciel qui est un mythe, mais le rêve humaniste de l'utopie. Et quand les hommes considèrent l'Église, le christianisme, ils disent « ça c'est un mythe, il faut rejeter cela ». Mais quand on lit l'Écriture, on voit que c'est tous les systèmes que les hommes essayent de mettre en place qui sont des mythes et que la réalité, elle est en Jésus-Christ. Jésus dit « je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages ». Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de gouvernement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ce n'est pas là-dedans qu'il faut mettre notre confiance et voir cela comme ce qui va nous sauver. Pas du tout. Les hommes, quels qu'ils soient, ont besoin de Jésus-Christ. C'est le seul qui donne la vie et qui la donne pleinement, avec une grande satisfaction. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu es la porte. La porte des brebis, tu es venu pour que nous puissions avoir la vie et que nous puissions l'avoir en abondance. Seigneur, que nous venions à toi, que nous te fassions confiance, que nous apprenions à nous appuyer sur toi, à regarder tout ce qui se passe dans notre monde d'après ta parole et pas l'inverse. Seigneur, merci encore pour toutes ces choses et que ton nom soit béni. Amen.